Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai souhaité vraiment que nous lisions la parole, que nous partagions la parole avant de prendre le pain et le vin. Et je vais même vous demander quelque chose. Je vais vous demander de vous lever pour lire la parole de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas mon habitude. J'aime pas, moi, quand on donne les églises, on se lève, on s'assoit. Mais je sais qu'à des moments, c'est important que nous réalisions que nous lisons quelque chose qui est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Dans l'évangile de Jean, si vous avez votre Bible, lisez-le avec moi, quelqu'un avait besoin. Thomas avait besoin d'une expérience particulière. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Peut-être quelqu'un a besoin d'être touché par le Seigneur. Dieu y sait. Vous savez, hier soir, avant de m'endormir, je lisais le psaume 140 et quelques, où il est dit « Toi, tu connais mon sentier ». Je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais moi, ça m'a fait du bien de lire que Dieu y connaît notre sentier. Et il sait où on en est. Et Dieu savait où en était Thomas. Il avait besoin de faire une expérience. Et on va lire cette expérience, s'il vous plaît. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux. » Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Et nous sommes vraiment concernés par cette parole. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Dieu connaît le chemin sur lequel vous vous trouvez, chacun. Il sait le sentier, il sait ce que vous êtes en train de vivre. Thomas était en train de vivre des moments difficiles. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Thomas avait vu tout s'écrouler. Ce Seigneur qui aurait dû régner pour lui, qui aurait dû gouverner, qui aurait dû manifester sa seigneurie en Israël, le voilà mort, il est mort. Il est mort et enterré, il a été crucifié, il a été rejeté, il est désespéré. C'est un apôtre, c'est un disciple, vous savez qu'on soit chrétien, disciple, apôtre, pasteur, on est tous à la même enseigne, on a tous des moments difficiles. Et Dieu sait si quelqu'un a besoin de faire une expérience nouvelle avec lui. Et si je vous ai demandé de vous lever, ce n'est pas pour faire du cinéma, certainement pas. C'est parce que je crois que c'est bien de réaliser que toute la parole est inspirée, qu'on a besoin de la parole. Une parole de Dieu, une parole de grâce, une parole de réconfort. Tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin. Je voudrais que ce soit un moment béni pour tout le monde. Il avait besoin d'une parole. 3 mots. Thomas, regarde mes mains. 3 mots. C'est important. Si Jésus l'a dit, c'est important. Les mains des hommes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais les mains de Jésus. Les mains de Jésus. Quoique les mains des hommes, des fois on reconnaît un peu la personnalité. Moi je voyais des gens, ils vous serrent la main et la main gauche. Vous voyez, le mouchoir dans la main. Il y a des gens, ils vous serrent la main, ils cassent presque les os. Les mains parlent. Les mains des gens parlent un peu. La main d'un bébé. Vous avez vu la main de Naomi? Vous ne l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu. comme la main d'un agriculteur, la main d'un maçon, la main d'un intellectuel. Les mêmes parlent, on pourrait faire tout un truc sur les mains. Mais si Jésus dit « Regarde mes mains », c'est que c'est important. Et c'est peut-être la parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. Il y a un message dans chaque parole de Jésus, il y a un message. On peut l'expliquer comme on voudra, mais il y a un message. Ces mêmes parlent de guérison. Vous avez lu les évangiles, nous sommes des chrétiens. À moins que vous veniez pour une des premières fois, si vous avez lu les évangiles, vous avez vu le nombre de fois où Jésus a posé ses mains sur des malades et qu'il les a tous guéris. Ses mains guérissent. Ce matin, la main du Seigneur peut vous guérir. Vous le croyez? Est-ce que la main du Seigneur ce matin peut guérir un malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est affligé physiquement? Les docteurs vous ont donné de mauvaises nouvelles. Regarde mes mains. Te dit le Seigneur, regarde ses mains. Vous avez vu, après le sermon sur la montagne, vous avez vu ce merveilleux sermon, tous ces gens qui le suivaient, et puis ce lépreux qui s'est approché, couvert de la tête aux pieds, couvert de lèpre, couvert de maladie, et Jésus va faire quelque chose que personne ne pouvait faire. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait le faire, parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Donc Jésus a posé sa main sur le lépreux, et cet homme a été instantanément guéri. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et instantanément, cet homme a été guéri. Qui peut croire ce matin que même pendant la prédication, que pendant qu'on prendra le pain et le vin, Dieu peut poser sa main sur quelqu'un et le guérir? Il y en a qui le croient ce matin? Est-ce que, ou quelqu'un même qui n'est pas là, vous savez? Est-ce que Dieu peut poser sa main sur un de nos enfants? Vous rappelez la Syrophénicienne? Jésus n'a-t-il pas posé sa main alors que cette fille était possédée par le démon? Est-ce qu'il faut absolument être là? Ou est-ce que Dieu peut honorer la foi d'un de ses enfants d'une manière particulière? Oui, Jésus peut poser sa main. Chez l'apôtre Pierre, c'est bien de prendre quelques exemples. Pour rappeler le jour où Jésus a été le soir mangé chez l'apôtre Pierre, et dans la maison de l'apôtre Pierre, il y avait la belle-mère. Et cette belle-mère était fatiguée, elle avait une forte fièvre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé dans sa chambre, il a posé sa main sur cette femme, sur sa main, je crois. Et Dieu l'a instantanément guéri. La fièvre, ça arrive d'avoir la fièvre? Je ne parle pas de la fièvre qui nous amène à 38 ou 39 ou 40. Je parle de la fièvre spirituelle. Ça arrive que ça boue des fois là-dedans? Est-ce que ça vous arrive? Dites-moi, est-ce que ça vous arrive? La fièvre. Est-ce que Dieu est capable de guérir la fièvre? Bien sûr. Oui. Et aussitôt cette femme, alors que quand on a eu de la fièvre, bon, il faut un peu de temps pour se relever un peu. Eh bien cette femme, aussitôt, elle s'est mise à servir les frères qui étaient là. Vous savez, si le Seigneur vous touche ce matin, vous pourrez de suite vous remettre à servir le Seigneur. Peut-être c'est ce que Dieu veut que vous fassiez, que vous vous remettiez à le servir de tout votre cœur, que vous vous remettiez à avoir du zèle pour lui. Vous connaissez l'histoire. De suite, elle s'est levée et elle s'est mise à les servir. Un jour, il y avait deux aveugles qui avaient entendu parler de Jésus. Jésus passait comme par hasard dans le village. Et ces deux aveugles, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à suivre Jésus. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Mais à bout d'un moment, Jésus les a rejoints dans une maison, je crois que c'est bien, dans une maison. Et il leur a posé la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous? Ils étaient aveugles, ils avaient entendu. Ils étaient là dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a posé ses mains sur ces aveugles et les aveugles ont été guéris. Je m'adresse à celui qui est malade ce matin. Vous savez, ce n'est pas mon sujet de prédilection, la maladie. Ce n'est pas un sujet qui m'a préoccupé, vous le savez. Mais quand même, à des moments, quand je suis poussé à prêcher là-dessus, je sais que ça doit correspondre à quelqu'un qui est malade. Peut-être que quelqu'un ce matin se dit, mais moi, si vous saviez les nouvelles que j'ai reçues. Oui, eh bien écoutez, moi je vous dis, regardez les mains du Seigneur et attendez-vous à la guérison. Parce que nous avons un Dieu qui guérit. Sa main peut se poser sur vous. Vous le croyez? Tout est possible à Dieu. Ça est écrit ça aussi. Tout est possible à Dieu. Croyez-le ce matin. Vous savez, des fois on va au culte, c'est le dimanche matin, c'est la routine, c'est le train-train. On y va parce qu'on aime le Seigneur. En plus, il n'y a pas du tout d'hypocrisie. Mais ça peut être quand même la routine. On peut être très, très, très dans la tradition et sans être un hypocrite. Et je voudrais ce matin que nous comprenions tous que le Seigneur a le pouvoir de bénir n'importe quel de ses enfants. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous rappelez un jour ce chef de la synagogue? Il devait être pas bien vieux puisqu'il avait une jeune fille de 12 ans qui était très malade à l'extrémité. C'était un religieux. La religion, ça ne sert à rien, la religion.
Et cet homme, il était là, il s'en va, il sait que Jésus, il y a une grande foule, et il court, et il arrive à Jésus. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains. Vous connaissez la suite, il y a eu tout un travail, tout un tas d'aléas qui se sont passés. Vous savez, ça n'a pas été évident. Et puis il y a quelqu'un de très intelligent, parce qu'il y a des gens qui ont le tact pour dire les choses. Je ne sais pas si vous le savez, il y a des gens, ils n'ont aucun tact. Puis paf, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, c'est pas la peine que tu importunes le maître, ta fille, elle est morte. Il y a des gens qui n'ont aucun tact. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens, c'est pour ça qu'il faut quand même apprendre à dire les choses. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait réfléchir. Je crois que dans chaque parole de Jésus, il y a un message, mais dans chaque comportement humain, il y a aussi un message qu'on peut étudier. Je le crois vraiment. Il se prend de scène, il fait juste une simple prière. Viens, impose-lui les mains. Et elle sera guérie. Vous connaissez cette histoire? Elle est merveilleuse. Hein. Et qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Parce qu'est-ce qui a dû se passer aussi dans la tête, dans le cœur de cet homme, quand on lui a dit avec beaucoup de tact, n'importune plus le maître, ta fille, elle est morte. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Vous connaissez? Ne crains pas, crois seulement. Et Jésus, dans la paix, va partir et rejoindre cette petite dans cette chambre. Une petite de 12 ans, c'est pas un âge pour mourir. Vous allez me dire, il n'y a pas d'âge pour mourir. Est-ce qu'il y a un âge pour mourir? On peut mourir à tous les âges, Dieu peut nous reprendre quand il veut. Mais c'est vrai que 12 ans, ça fait quand même un peu jeune. Et là, Jésus va se retrouver dans cette maison, mon Dieu, quelle expérience. Vous croyez que c'est vrai cette histoire? Vous savez que Jésus a rencontré 3 fois la mort dans sa vie. Et les 3 fois où il a rencontré un mort, il les a ressuscités. Parce qu'il est la vie. Il est la vie. Nous, beaucoup même de chez nous, sont encore dans la religiosité. On était catholique, on est devenu évangélique. C'est pas ça du tout. On n'était pas catholique, on était perdu. Et aujourd'hui, nous avons compris que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et il est vivant, assis sur son trône. Et là, il est rentré dans cette maison. Hein, et vous connaissez ce qui s'est passé? Il a pris la main, avec ses mains, il a pris la main de cette petite de 12 ans, qui était morte. Et il lui a parlé en araméen, parce que c'était sa langue maternelle. Talita Kumi, ça veut dire, jeune fille, lève-toi. Comment ça s'est passé? Ça devait être merveilleux, non? Quelle expérience, quelle bénédiction. Les mains de Jésus qui se posent sur les mains de cette petite fille de 12 ans, et voilà que cette fille reçoit la vie. Personne ne peut l'expliquer. Comment Dieu peut ressusciter un corps, comment Dieu peut ressusciter un mort? Personne ne peut l'expliquer, on peut juste le prêcher, le proclamer, c'est la vérité. Mais quelle bénédiction quand Jésus fait ces choses. Oui, Jésus a des mains pour bénir. Et s'il dit à Thomas, regarde mes mains, s'il dit ce matin dans cette église, regarde mes mains, c'est à un de nous, peut-être à tous, mais peut-être à quelqu'un en particulier qui a vraiment besoin d'entendre cette parole. C'est sérieux. Si moi je vous dis regarde mes mains, ça veut rien dire. Ça veut dire, tiens, elles sont ci, elles sont ça, j'ai bossé, j'ai pas travaillé. Mais quand Jésus dit regarde mes mains, c'est sérieux. Il veut vous bénir, il veut vous consoler. Il sait, Thomas dans son doute, on a dit de tout sur Thomas, mais Thomas, il traverse un moment difficile, et ce n'est pas la peine de critiquer quelqu'un qui traverse un moment difficile, il avait besoin d'une expérience. La preuve, c'est que Jésus va la lui faire. Pourquoi? Parce qu'il est au bon endroit. Et ça aussi, c'est important d'être au bon endroit. Je crois que c'est important d'être ici ce matin. Vous croyez que c'est important? Moi, je le crois, que c'est important d'être à la place où Dieu veut que l'on soit, d'être dans sa maison, de se retrouver. La première fois, il n'y était pas. Il est passé à côté d'une expérience merveilleuse. Il aurait pu gagner 8 jours, oui ou non, hein? Et là, il a perdu 8 jours. Pourquoi? Parce qu'il était tellement désemparé qu'il était parti. On appelle nous ça les rétrogrades, les fils prodigues. Je ne sais pas si on peut tous les appeler comme ça. En tous les cas, il n'était pas là où il aurait dû être. Et heureusement que le Seigneur est patient, et heureusement que le Seigneur il est bon pour revenir nous parler lorsque cela est nécessaire. Oui, les mains de Jésus nous parlent aussi de guérison, de résurrection, mais aussi de bénédiction, de provision. Vous vous rappelez quand cette foule de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et on évalue la foule à 25 000 personnes, imaginez-vous, c'était tard le soir. Et ils avaient faim, et les disciples, bien sûr, très spirituels, ont dit à Jésus, écoute, renvoie la foule, t'as vu l'heure qu'il est, c'est bon, renvoie-les. et Jésus va les arrêter tous et va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Alors ça a dû être la grosse affaire chez les 12, ils ont dû se regarder. Voilà, et Jésus va leur dire, voilà, faites-les asseoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Faites-les asseoir. Alors on a fait un petit recensement, là, qu'est-ce qu'il y a pour manger? Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit garçon qui avait amené son goûter, il y avait 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose. Apportez-les-moi. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va rendre grâce. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous rendez grâce pour les petites choses que Dieu vous a données? Parce que c'est une question qu'on peut poser. Ou est-ce que vous dites, oh non, ça c'est pas beaucoup. Non, là je ne rends pas grâce, c'est qu'un sandwich. Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? Est-ce que vous savez rendre grâce pour les petites choses que Dieu vous a données? Parce que peut-être avant d'en avoir de plus grandes, parce que Dieu peut en donner de plus grandes, ça serait bien qu'on commence à le remercier pour les petites choses qu'il nous a données. Vous connaissez la suite? Quelle histoire! Beaucoup de gens même disent non, la Bible, des gens remettent en question la parole de Dieu avec des histoires pareilles, en disant mais c'est pas possible, qui peut multiplier la matière? Parce que la multiplication des pains, la multiplication des poissons, c'est quand même une grosse affaire. Ça prouve bien que Jésus-Christ est le créateur du monde. Il a multiplié les atomes, qu'on le veuille ou non. Parce que pour multiplier le pain, il faut qu'il y ait multiplication d'atomes, qu'on le veuille ou non. Mais qu'est-ce qu'elle est là? Pourquoi elle est là, cette histoire? Pour que Jésus a voulu mettre plein la vie aux gens? Jésus a voulu nous rappeler qu'il pourvoit. Il pourvoit aux besoins, à tous les besoins. Vous entendez, mes frères et sœurs? Jésus, ce matin, peut pourvoir à tous vos besoins. Regardez ses mains, les siennes à lui. Regardez ses mains. Comprenez que ce message, il est plein de vie, il est plein de bénédictions. Il bénit, c'est un Dieu qui bénit. Vous savez, on est dans un temps difficile, il y a des gens peut-être qui n'ont pas d'emploi, il y a peut-être quelqu'un qui a un problème au niveau financier. Est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir? Je me souviens de cette femme, quand j'étais pasteur à Grouillé, une femme qui découvrait l'évangile, qui avait fait... C'était une voyante, et quand je lui ai lu ce texte dans le Deutéronome 18, où il est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à toutes ces sciences occultes, cette femme, il a fallu qu'elle s'assoie tellement elle était secouée. Pour elle, elle croyait qu'elle le faisait pour Dieu, et puis après des heures de discussion, elle s'est rendue compte qu'elle travaillait pour le diable. Ça a été compliqué, et je me souviens, juste avant sa conversion, j'ai été la voir, elle était dans un pétrin financier pas possible. Et je lui dis, mais vous savez, Dieu pourvoit. Elle devait, à l'époque, ça devait correspondre à 25 000 euros. Elle devait 25 000 euros, sinon lui saisissait à la maison. Et je me souviens, j'avais été la voir et on avait prié. C'était une femme vraiment qui était en recherche, une femme qui avait livré des combats pas possibles. Et je dis, mais vous savez, Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et on a prié. Je me rappelle, ça avait été un moment difficile. C'était un moment de combat spirituel, ce moment de prière. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Gault, vous ne le croirez pas, j'ai reçu un chèque de cette somme-là. C'était 14 briques à l'époque, on fait ça. Vous voyez ce que ça correspond? C'est une vieille tante qu'elle ne connaissait pas, qui était décédée. La seule héritière, c'était elle. Et comme par hasard, ça tombait ce jour-là, les 200, 25 000 euros dont elle avait besoin. Vous croyez que c'est le hasard, vous? Moi, je crois que nous avons un Dieu qui pourvoit. Et nous devons nous attendre à lui. Et quand Jésus dit à une église, « Regarde mes mains », c'est quelque chose... qu'il faut faire. C'est sérieux. Ses mains ont tout créé. Vous le croyez que ses mains ont tout créé? Vous le croyez que par ses mains, il a créé l'univers? L'univers, les milliards de galaxies qui contiennent chacune des milliards d'étoiles, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout ça, ça nous dépasse. Mais le Seigneur a créé toutes ces choses par ses mains. C'est écrit qu'il a tout créé par ses mains puissante. Les mains qui pourvoient, les mains du Seigneur qui bénissent. On vient de demander la bénédiction de Dieu sur un petit enfant. Les mains qui se posent sur un petit enfant. Vous connaissez cette affaire qu'on a lue tout à l'heure? Ces mamans qui ont dû se dire, mais quand même, je ne sais pas, peut-être elles étaient en train de discuter, c'était une réunion, tu perds ouais, peut-être, je ne sais pas. Il y avait une réunion, elles étaient en train de discuter, mais elles ont dû dire, mais quand même Jésus, il bénit tous ces gens, tous ces adultes, tous ces grands. Et là, nos bambins, il ne peut pas les bénir. Elles ont pris la décision, je ne sais pas combien ils étaient, 5, 6, je ne sais pas. Enfin, elles ont pris leurs gosses et elles sont allées les amener à Jésus. Et là, les disciples d'une très grande spiritualité ont dit, C'est pas la peine, Jésus a autre chose à faire que de bénir les enfants. Vous voyez comme quoi, des fois, on peut passer à côté de la volonté de Dieu. Vous l'avez lu avec moi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le temps de prendre ses enfants, un par un sûrement. Il les a pris sur ses genoux et il les a bénis. Les mains du Seigneur, elles peuvent bénir tous nos enfants. Je sais que ce n'est pas facile pour certains, mais jeune maman ou maman plus âgée, ou grand-mère qui est ici, il y a des jeunes mamans ici? Il y a des grand-mères? Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Dieu peut bénir et Dieu veut bénir vos enfants. Il faut les lui amener. Il faut les lui amener. Est-ce que vous avez pris le temps d'amener vos enfants au Seigneur? Vous avez dit, mais monsieur, ils sont grands, mes gosses, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans. Eh oui, eh oui. Est-ce qu'on peut amener nos enfants au Seigneur? Mes frères et sœurs, moi je vous le dis, je pense que parfois, nous passons à côté de certaines bénédictions. Les mains du Seigneur qui ont béni ses petits, elles sont toujours aussi puissantes pour bénir vos petits, pour bénir vos grands, s'ils sont grands, parce que vous avez peut-être des grands, des grands-enfants à la maison, non? Il y en a qui ont des grands. Hein? Madame Carrière, elle est là, Madame Carrière, ce matin? Non? Madame Carrière, son fils, je crois qu'il a 78 ans. Vous voyez? Son petit, il a 78 ans. Vous voyez? Mais enfin, moi, je vous le dis, les mamans, amenez vos enfants au Seigneur. Est-ce qu'elles ont bien fait, ces mamans, ce jour-là? Futures mamans, il y a peut-être des futures mamans, ici, des futures mamans, des jeunes filles. Sachez que Dieu peut bénir vos enfants, que Dieu bénira vos enfants. Il ne faut pas faire de gosses, t'as vu dans la... Alors, vous entendez de tout aujourd'hui, les enfants. Vous savez qu'on entend de tout, même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas faire de gosses, parce que dans le monde qu'on est, qu'est-ce qu'on va leur donner? Oui, mais c'est sûr que ça va être compliqué. Si Jésus tarde, ça va être de plus en plus compliqué. Mais moi, je vous dis qu'un enfant, il peut être dans les mains du Seigneur et il peut être béni. Et que votre enfant, il peut être béni. Que vos petits-enfants, ils peuvent être bénis. C'est pour ça, appliquez-vous à apporter vos enfants au Seigneur. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et il a pris le temps. Il avait peut-être un méga programme, j'en sais rien. Mais Jésus prendra tout le temps qu'il faudra pour bénir vos enfants. C'est important. Ne vous inquiétez pas. Regardez les mains du Seigneur. Si elles ont béni ces petits, laissez-moi vous dire qu'elles béniront les vôtres. Vous en avez des enfants, hein? Combien, j'aimerais savoir combien on en a à tous les membres de l'Église, enfants et petits-enfants. Eh bien, Dieu veut les bénir à tous, même si ce sont des minables, des misérables, si ce sont des garçons, des femmes qui ont mal tourné. Est-ce qu'il y en a dans nos familles des enfants qui ont mal tourné? Vous croyez que ça gêne le Seigneur de les bénir? Vous croyez que Dieu peut attirer un de nos enfants et le bénir à la maison? Qui croit vraiment que Dieu peut bénir n'importe quel enfant récalcitrant? Cette semaine, je parlais avec une chrétienne, je ne sais plus, et on parlait de Saint-Augustin. Vous savez, au IIIe siècle, parce que bon, quand on parle de l'Église primitive au IIIe siècle, c'était déjà l'Église catholique, mais ce n'était pas l'Église catholique d'aujourd'hui. Et quand vous regardez les écrits de Saint-Augustin, ce jeune homme, Augustin, qui s'appelait à l'époque, il était dans un petit village en Italie, c'était un petit village et sa mère le coucounait pour pas qu'il s'en aille à Rome, parce que c'était une ville perverse, et un jour, elle apprend qu'il part à Rome, faire ses études et travailler. Et bien c'est là qu'il s'est converti dans une ville perverse et corrompue et qu'il est devenu cet homme de Dieu. Parce que quand même, si vous lisez les écrits de Saint-Augustin, laissez-moi vous dire que c'est vraiment devenu un homme de Dieu. Oui, ne vous inquiétez pas, amenez vos enfants et vos petits-enfants dans les bras du Seigneur. Mais prenez le temps. Ne dites pas « j'ai pas le temps de prier ». Prenez le temps d'amener d'une façon sérieuse et consciencieuse vos enfants et vos petits-enfants aux pieds du Seigneur. Les mains de Jésus, ces mains-là, elles vont être lavées, elles vont être parfumées, les mains de Jésus, non? Qu'est-ce qu'on va en faire des mains de Jésus? Bien sûr que vous savez ce qu'on en a fait. On les a honorées pas longtemps. Hosanna, Hosanna, ça n'a pas duré longtemps. Le soir même, on criait dans tout Jérusalem, crucifie-le, crucifie-le. Quand on voit ce que les mains de Jésus ont fait, on ne peut qu'être obligé de dire « les gens sont fous ». L'homme est fou. L'homme, il est fou. Il est complètement fou. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous vous rendez compte ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre et ce qu'on a fait de lui? Mais franchement, et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Si, ça a changé, mais en pire. Ça a changé en pire. Mais nous, nous voulons honorer le Seigneur et prendre le pain et le vin avec beaucoup de respect, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de reconnaissance. Et nous voulons véritablement croire que ces mêmes mains ont le même pouvoir aujourd'hui que Dieu dans le ciel de bénir ses enfants. Qu'est-ce qu'on a fait de Jésus? Qu'est-ce qu'on a fait de ses mains? On les a crucifiés. Quand on regarde tout ce que les mains de Jésus ont fait, et quand on regarde ce que les hommes en ont fait, quand on voit comment on l'a arrêté, comment on lui a craché dessus, ce qu'on a mis, on a mis dans ses mains, vous savez, on a mis une espèce de petit roseau, là, je crois, oui, un roseau pour le faire, parce que tu dis que t'es roi, ah ben, on va s'en occuper. Vous savez ce qu'ils ont fait, les soldats, ils ont pris des épines, et ils ont fait une couronne, et ils ont tapé dessus, sur la tête. Voilà ce qu'on a fait des mains de Jésus, voilà ce qu'on a fait du Seigneur. Ah, c'est le roi des Juifs, on va s'en occuper, oui. On va le fouetter, on va le charger de sa croix. Et là, à Golgotha, on va crucifier ses mains. Regarde mes mains. Ah, mes mains crucifiées. Monsieur Gault, qu'est-ce que vous nous demandez? J'espère que si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore baptisé, peut-être que vous n'êtes pas encore converti. Et vous vous demandez, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de regarder les mains de Jésus? Eh bien, si Dieu le dit, c'est sérieux. C'est quelque chose qui va vous changer. C'est quelque chose qui peut vous amener à réfléchir. C'est sûr que c'est pas facile peut-être pour certains, mais comment ça vous nous demandez de regarder les mains de Jésus crucifiées sur le calvaire, ce sang qui coule, mais franchement c'est pas beau à voir. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Regarde mes mains, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que Dieu nous a aimés. Est-ce que vous le savez? Quand Jésus dit « regarde mes mains », ça nous rappelle à nous les chrétiens que Jésus nous a aimés comme c'est pas possible de le comprendre. Regarde mes mains. Oui, c'est pour les pécheurs. Ceux qui peut-être disent, oui, mais moi, c'est pas lui qui va remplir mon portefeuille le mois prochain. On entend des bêtises pareilles. Mais c'est lui qui peut vous donner un bon travail pour que vous ayez un salaire qui convient. Regarde mes mains. Je pense qu'on a tout à gagner, même nous les chrétiens, à dire, mais ce matin, je veux le faire. Et c'était bien qu'on se lève pour lire la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout sentimental. C'est bien, parce que dans la parole, il y a vraiment le message qui va nous bénir. Vous le croyez toujours, qu'il y a dans la parole la bénédiction. Regarde mes mains crucifiées. Ben oui, ça fait réfléchir. C'est quoi qui va nous changer? C'est d'avoir des mains de droite ou des mains de gauche ce soir en France? C'est pas la gauche ou la droite qui va nous bénir. C'est le Seigneur Jésus qui vous bénira. C'est ridicule de croire qu'un gouvernement, une république, quelle qu'elle soit, peut changer le monde. Ça ne peut pas, ça vient des hommes, ça ne peut pas marcher, ne vous affolez pas, rien ne marchera. Ça marchera quand Jésus sera le président du monde. Ça devrait tenir debout, croyez-moi. Mais oui, réfléchissez, réfléchissons, ce pain et ce vin. Pourquoi Dieu m'a mis ce message à cœur? Peut-être que quelqu'un a besoin de dire, mais moi aussi, je suis comme Thomas, je suis là, mais j'ai besoin de quelque chose. Vous rendez compte, si Jésus n'avait pas livré sa vie au calvaire, on allait tous à l'enfer. Vous le savez, ça? On y allait tous. On était tous perdus. Et grâce à ses mains crucifiées, grâce à ses mains ensanglantées, vous le savez, on ira au ciel pour l'éternité. Oui, ça vaut la peine de regarder les mains du Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. J'avais envie de le dire, oui, je le lis. Dans Ésaïe 53, vous connaissez ce texte, on peut le lire, on va lire à partir du verset 3. Lisons-le, parce que c'est certainement ce chapitre par lequel des milliers de Juifs se sont convertis et sont véritablement venus à Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 3. Jusqu'au verset 8. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru ? Amen. Et parmi notre génération, qui croit ce matin ? Qui dit oui, merci Seigneur pour tes mains. Les mains du Seigneur, les mains de Dieu qui peuvent bénir, pourvoir, transformer, guérir. Ces mains, bien sûr que Thomas se disait, mais Thomas, mais il est mort. Pour beaucoup de gens, Dieu est mort. Pour beaucoup de gens, Jésus est mort. Vous savez, c'est ça. Ça plaît aujourd'hui dans la philosophie, ça, d'écrire des bouquins, Dieu est mort. Il y a des grands philosophes qui ont écrit du style comme ça. Mais Dieu dit à Thomas, je ne t'ai pas oublié. Et ce matin, je voudrais que vous sachiez que Dieu ne vous a pas oublié. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Les mains du Seigneur, elles ne vous oublieront jamais. Vous savez, quand dans Ésaïe, justement, quand il est dit, quand le peuple est affolé, un peu comme Thomas, il s'inquiète parce qu'il se voit. Et Jésus dit, mais une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait ? Et même si elle le faisait, et on le fait, on retrouve des enfants dans des congélateurs, des bébés dans des congélateurs. Vous la prenez comme moi, ça. Vous l'avez appris, vous la prenez. Des enfants morts dans des congélateurs. Oui, une femme peut perdre la tête et oublier l'enfant que Dieu lui a donné. Ça peut arriver. Oui, mais c'est pas, je ne dis pas ça pour faire de la peine. Hein. C'est cette femme, si un jour elle entendait ça, mais quand même. Hein. Mais Dieu dit, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alors, c'est vrai que nous, ça nous dépasse toute cette grandeur. Mais quand Jésus est mort sur le bois de la croix, dans ses mains ensanglantées, vous pouvez croire que votre nom a été gravé. Que son nom soit béni. Vous le croyez, mes frères et sœurs ? Je ne sais pas comment vous l'expliquez. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ça veut dire qu'au calvaire, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il pensait à vous. Vous allez me dire, mais ça nous dépasse, tout ça, on est 7 milliards. Aujourd'hui, combien? Écoutez, ne vous inquiétez pas de ce que vous ne comprenez pas. Croyez que Jésus a pensé à vous et que lui, il ne vous oubliera pas. Et il ne peut pas vous oublier. Je vous dis, je ferai une prédication sur ce verset, j'ai failli la faire d'ailleurs. Quand David dit, toi, tu connais mon sentier. Oui, vous ne le connaissez peut-être pas trop, le sentier sur lequel vous êtes. Vous n'y voyez pas trop clair. Il y a peut-être des ténèbres, il y a peut-être le chemin qui monte. Mais Dieu, il connaît le sentier où vous êtes. Dieu, il savait ce qui se passait dans la tête de Thomas. Jésus n'a pas dit à Thomas, pendant 3 ans, je t'ai expliqué. Pendant 3 ans, tu n'as pas vu. Pendant 3 ans, tu n'as pas vu les miracles. Combien de fois je vous ai dit que je devais mourir, que je devais être arrêté, que je devais être crucifié, que je devais ressusciter, mais vous n'avez rien écouté. Non, il a dit, avance. Avance ta main. Avance-toi. Je ne sais pas s'il s'est avancé, peut-être qu'il n'a pas osé, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il a mis la main dans son côté, on ne le sait pas. Ce n'est pas écrit. Mais Jésus le lui a proposé. Et ce matin, c'est pareil. Le Seigneur vous fait cette proposition, mais regarde mes mains. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je sais que c'est la parole de Dieu pour vous. Je sais que c'est la parole de Dieu pour quelqu'un qui en a marre. Quelqu'un qui n'en peut plus. Quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est. Quelqu'un qui est comme Thomas. Quelqu'un qui est comme Thomas, là, qui dit, mais je ne vais pas y aller. Et heureusement que le Seigneur est bon. Parce que vous avez lu avec moi, les portes étaient fermées. Ils s'étaient enfermés, barricadés. Je ne sais pas s'ils avaient bloqué la porte avec un meuble, je ne sais rien. Ils s'étaient barricadés tellement ils avaient peur. On avait crucifié le Seigneur. Il y avait de fortes chances qu'on fasse pareil à ceux qui les suivaient. Ils avaient peur. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il est entré sans passer par la porte. Ça vous rassure ou non ? Ça vous rassure pas ? Toutes les fois que votre cœur est fermé, toutes les fois que vous êtes enfermé dans la crainte, toutes les fois que ça va pas, le Seigneur, il est capable d'entrer sans qu'on lui demande. Est-ce que ça vous rassure ? À moi, oui, ça me rassure. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir que si ça va pas, le Seigneur, il peut vous rejoindre ? Que ce matin, je ne sais pas où vous en êtes, mais dans ses mains, dans son sacrifice, dans ce rappel de la Sainte Cène. C'est sérieux, la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est voilà, je résume la Sainte Cène en fin de compte. La Sainte Cène, c'est quoi ? C'est que ces mains crucifiées, ce sang qui a coulé, ce peu de vin, là, on a du vin dans, dans,
C'est dommage, je n'en ai pas un peu dans la coupe. Mais ce petit peu de vin, là, vous l'imaginez dans ce petit gobelet tout à l'heure qui va passer. Il représente quoi? Il représente qu'il vous a tellement aimé que vous puissiez tous être tous pardonnés. Quel que soit votre péché. Vous ne trouvez pas qu'on en commet des péchés? L'adultère, peut-être quelqu'un a commis l'adultère? Est-ce que Dieu pardonne l'adultère? Vous ne répondez pas? Est-ce que Dieu pardonne l'adultère? Est-ce que Dieu pardonne le mensonge? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Tout péché et tout blasphème sera pardonné. C'est ça les mains de Jésus. Regarde mes mains, les mains du Seigneur toujours, qui nous rappellent ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, pour que vous soyez pardonnés. Vous n'avez pas besoin de pardon de temps en temps? Il n'y a pas des fois, il y a tellement besoin qu'il y a des pasteurs qui n'osent même plus prêcher sur la sanctification, parce qu'on est tellement dans le rouge parfois, qu'on pourrait nous dire, mais toi tu prêches sur la sanctification, mais tu n'as pas honte, tu as vu ce que tu as dit l'autre jour. C'est vrai que c'est délicat. Mais mes frères, mes sœurs, les mains de Jésus, percées, crucifiées, ensanglantées, c'est pour que nous nous souvenions toujours que dans nos moments difficiles, comme Thomas qui était désespéré, parce que pour lui il était mort, quand ils ont dit « on a vu le Seigneur », il aurait dit « mais quel Seigneur vous avez vu ?» Il ne pouvait pas le croire dans sa tête. Peut-être que ce matin vous ne pouvez pas croire que Dieu peut vous rejoindre, que Dieu peut pourvoir, que Dieu peut vous guérir de tout votre passé, de toute votre misère. Il y a des chrétiens qui se traînent des casseroles depuis des années. Ils ne croient pas au pardon. Est-ce que vous croyez au pardon? Vous êtes malheureux si vous ne croyez pas au pardon. Vous êtes malheureux. Dieu pardonne. Vous avez vu ce brigand sur la croix? Quelle affaire! Vous voyez, ce criminel, un criminel! Et heureusement que Jésus lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que cette prière, ce n'est pas une prière très, très doctrinale. Souviens-toi de moi. Il aurait pu dire, je te demande pardon parce que j'ai commis des meurtres. Je demande pardon parce que... Quelqu'un aurait dit, attends, mais tu. Ce n'est pas une prière, ça. Ce n'est pas une prière, souviens-toi de moi, ce n'est pas une prière. Ça ne sert à rien. Vous savez, il y en a qui l'auraient fait, ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'il y en a qui auraient dit à cet homme, mais ce n'est pas une prière, mais tu plaisantes. Avec ce que tu as fait, tu t'autorises à prier de cette façon-là. Tu es comme pauvre type. Oui, c'est un pauvre type. Mais le Seigneur, il a voulu nous montrer qu'il connaît notre cœur. Et il savait rejoindre Thomas, il saura vous rejoindre. Thomas avait besoin d'une parole, il s'est adressé à Thomas. Ce matin, vous avez besoin d'une parole, le Seigneur saura vous parler à vous. Vous entendez, mes frères et sœurs? Ne dites pas, mais moi je suis le plus minable, peut-être que si on faisait un sondage, c'est moi le moins spirituel de l'Église. Eh bien écoutez, peut-être que vous êtes le moins spirituel, mais vous êtes venu. Et Dieu a une parole pour vous. Regarde mes mains. C'est pas Thomas, Thomas il est au ciel, ça fait longtemps. Ou c'est aujourd'hui, c'est pour toi. Regarde mes mains. Regarde-les. Regarde ces mains, le pouvoir qu'elles ont. Vous rendez compte? Ce soir, peut-être que vous sortirez et vous regarderez quelques constellations. Vous regarderez peut-être sur Internet et vous verrez la taille de certaines étoiles. Et vous allez voir qu'il y a certaines qui sont assez grosses. Dieu a tout créé. Et ses mains se sont laissées crucifier. Et ce matin, il a un message. Trois mots, oui. Les politiciens, il leur faut 50 discours pour gagner des voix. Jésus, avec trois mots, il peut vous guérir. Vous sauver, vous relever, vous bénir. Est-ce que vous voulez prendre le pain et le vin ce matin? Est-ce que vous voulez le prendre, hein? Est-ce que vous voulez pouvoir dire aussi, moi aussi, je veux voir le Seigneur? Vous ne le verrez pas physiquement. Vous ne verrez pas ses mains physiquement. Mais vous pouvez la voir se manifester dans votre vie. Je reviens aux mamans, les mamans. Vous pouvez voir la main du Seigneur se poser sur vos enfants. Vous entendez? Amenez-les lui. Vous qui avez un problème financier, amenez-lui votre problème et rendez grâce, même si vous n'avez pas beaucoup, rendez grâce pour toute chose. Vous qui êtes malade, attendez-vous au Seigneur, avance-toi. Je vous dis, je ne sais pas, on ne sait pas, moi je n'aurais pas osé. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Si Jésus vous avait dit, avance, mets ta main, vous l'auriez fait vous ou vous ne l'auriez pas fait? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place de Thomas? Vous seriez avancé pour mettre la main dans son côté, vous l'auriez fait ou vous ne l'auriez pas fait? Moi je ne sais pas, je ne sais rien. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que Dieu ait une parole pour moi, une parole pour toi. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants, vraiment. Il est vivant, mes frères et sœurs. Et un jour, on va le voir, on va bientôt le voir, le Seigneur. Vous le croyez qu'on va le voir bientôt? Vous croyez que vous verrez ses mains? Oui, on va les voir. Regarde mes mains, ma sœur, mon frère. Regarde les mains du Seigneur. vous qui avez besoin de provision divine, vous qui avez besoin de pardon, vous qui avez besoin de voir vos enfants bénis. Si Jésus bénit ses enfants, il bénira les vôtres. Mais je le répète, jeune maman, ou maman âgée, ou grand-mère qui est ici, amenez-les lui, il les bénira. Dieu a le temps qu'il faut pour les bénir. Ce matin, c'est un bonheur de prendre le pain et le vin. Je les plains, mais je les plains, les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Je ne sais pas vous, mes frères et sœurs, mais moi je les plains. Heureux, heureux, ceux qui croient sans voir.